Bonjour Véronique.
Bonjour Claire, bonjour à tous les auditeurs de Radio Maria.
Merci à vous d'être disponible sur nos antennes pour cette nouvelle revue commentée de France Catholique. Alors nous commençons notre revue commentée avec un point d'actualité, celui de la condamnation de la GPA par le Parlement européen. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Alors, c'est important pour France Catholique de traiter l'actualité et pour une fois, nous pouvons nous réjouir de cette actualité parce que c'est une victoire contre la GPA. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le Parlement européen a effectivement condamné l'exploitation de la gestation pour autrui. Alors, certains vont dire « Ah oui, mais le Parlement européen n'a pas condamné directement la gestation pour autrui, mais son exploitation. » Oui, mais toujours est-il que c'est quand même une première victoire. Alors, cette victoire, elle a été rendue possible grâce à François-Xavier Bellamy, vous savez, le député européen de la famille des Républicains. Il est à l'origine de ce vote parce que c'est lui qui a introduit en commission la fameuse disposition de condamner l'exploitation de la gestation pour autrui. Et cette disposition a été approuvée presque à l'unanimité. C'est pas rien quand même, ça aussi c'est une occasion de se réjouir. 587 voix pour et puis 7 contre et 17 abstentions. Alors, les pays membres de l'Union européenne ont maintenant 2 ans pour mettre leur législation en conformité avec cette directive. Alors, c'est une très bonne chose parce que la directive porte sur la prévention de la traite des êtres humains. Et dans la prévention de la traite des êtres humains, on a donc ajouté l'exploitation de la GPA à la liste des crimes condamnés par l'Union européenne, au même titre que l'esclavage ou la prostitution forcée. Voilà, donc effectivement, c'est une sacrée victoire. On peut dire qu'il y a quand même une avancée et on peut s'en réjouir. Maintenant, attention, le combat n'est pas terminé parce que cette disposition, elle n'en a pas fait fléchir certains, comme Clément Beaune, l'ancien ministre chargé de l'Europe, ou Sarah El Haïry, vous savez, qui est ministre chargée de l'enfance, de la jeunesse et de la famille, qui disent... ils ne le disent pas haut et fort, mais ils le pensent très fort, que pour eux, le combat continue. Et puis, vous avez peut-être remarqué Marion Maréchal, qui est la tête de liste de Reconquête pour les Européennes, s'est opposée à la GPA parce que dans les médias, sur les réseaux sociaux, deux hommes se sont réjouis d'être papa en passant par une mère porteuse et elle a dit « Où est la maman ?» et elle s'est pris une volée de bois vert de la part de bien des ministres ou des élus ou des têtes pensantes dites progressistes, à commencer par Prisca Thévenot, qui est la porte-parole du gouvernement. Donc on voit bien que ce sujet de la GPA, malgré cette victoire remportée au Parlement européen, est encore une sacrée bataille et qu'il y aura bien, bien d'autres combats à mener. Donc, c'est là-dessus aussi que France Catholique a voulu mettre un coup de projecteur.
Merci beaucoup, Véronique, déjà pour toutes ces informations que nous allons continuer à suivre de près. Alors, dans cette nouvelle édition, France Catholique met à l'honneur la grande figure d'église de Saint Padre Pio. Pouvez-vous nous donner les grandes lignes de sa vie et les raisons de sa popularité pour les chrétiens d'aujourd'hui ?
Alors, si France Catholique a mis à la une Padre Pio, évidemment, ce n'est pas simplement parce que c'est l'un des plus grands saints du XXe siècle, c'est aussi parce qu'il y a une nouveauté, et c'est pour ça que j'invite vraiment tous les auditeurs de Radio Maria à lire France Catholique, parce qu'il va falloir voir les photos inédites qui constituent en fait le corpus de l'hebdomadaire cette semaine. Des photos inédites qui sont vraiment très très belles. Vous voyez, Padre Pio en noir et blanc, mais le grain de la photo est très très beau, et ces photos sont données par la Fondation Saint-Pio à l'occasion des 25 ans de la béatification de Saint-Padre Pio. Et elles ont été prises par celui qui était son photographe personnel, Elias Telluto. Mais attention, il y a une petite histoire qui est liée à ces photos, c'est pour ça qu'on y tient autant à France Catholique. C'est que Padre Pio n'aimait pas du tout être photographié, il n'aimait pas du tout être mis à l'honneur, elle était évidemment d'une grande humilité. Et le photographe, parfois, a pris des photos un peu dans la pénombre, à contre-jour, en se disant « mais ça ne rendra rien du tout ». Et c'est là que ça tient presque du miracle, toutes les photos sont magnifiques. Il y a une lumière qui vient d'on ne sait où. Voilà, c'est pour ça que j'invite vraiment les auditeurs de Radio Maria à découvrir ces photos. Alors après, bien entendu, nous avons eu la joie de constituer tout un dossier autour de cette grande figure de l'Église. Et Padre Pio, c'est en soi déjà une histoire extraordinaire, parce que tout jeune, il avait une piété telle que c'était une évidence pour lui d'entrer en religion. Il voyait son ange gardien dès l'âge de 5 ans. Il avait même déjà des petites attaques du démon. Il avait une familiarité avec tout ce qui était céleste, déjà très jeune. Et puis, il est rentré chez les Capucins très jeune aussi, à seulement 15 ans. Et là, c'était une vie quand même très difficile. La discipline était très rigoureuse. Et malgré son jeune âge, il n'a pas du tout été rebuté par ce cahier des charges vocationnel, si j'ose dire. Il a vécu dans une grande joie le fait de faire sa profession de foi religieuse. Et c'est en recevant la bure de Saint-François qu'il a aussi choisi son nom de moine, de religieux et de futur prêtre, à savoir Pio de Pietrolcina. Alors pourquoi Pio ? Eh bien parce qu'il avait une grande dévotion pour Saint Pie V, le grand pape qui a tant fait pour l'Église, donc il a choisi Pio. Et puis, pour autant, quand il est devenu prêtre, on l'a appelé Padre Pio. Alors pourquoi ? Eh bien parce que pour tout le monde, il reste un père pour l'Église et un père pour le peuple de Dieu, parce que il a vraiment porté et enseigné son peuple à travers sa sainteté, à travers sa configuration au Christ, et aussi parce que tous les jours, en confessant 8 à 10 heures dans son confessionnal de San Gianni Rotondo, pardonnez-moi pour l'italien, eh bien, il a remis et des catholiques et des gens très loin de l'Église dans le droit chemin et surtout sur le chemin du Père. Alors, les grandes lignes de la vie de Padre Pio, c'est bien entendu sa vie mystique aussi, c'est-à-dire qu'il est comme préparé à recevoir les stigmates du Christ, puisque je vous rappelle que c'est le premier prêtre stigmatisé, c'est-à-dire qu'il marche sur les traces de son saint patron, saint François d'Assise, mais saint François d'Assise n'était pas prêtre. Donc lui, c'est le premier prêtre stigmatisé. Il reçoit les stigmates à un peu plus de 20 ans, et avant, il avait déjà reçu une blessure d'amour, dira-t-il, et l'épisode de la transverbération, c'est-à-dire qu'il reçoit comme une flèche de lance qui lui fait là encore une blessure d'amour, qui lui perce le cœur, et il vit la même chose que Sainte Thérèse d'Avila, et il est donc préparé à recevoir les stigmates. Et là, on pourrait croire qu'en recevant l'extraordinaire de la vie du Christ, mais quand même, dans la configuration à la croix, eh bien, sa vie va être extraordinaire, y compris en vivant cette vie de par les grâces mystiques d'une façon facile. Et en fait, c'est tout le contraire qui se passe, parce que c'est moi qui ai écrit le papier sur sa biographie. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, à partir du moment où il reçoit les stigmates, d'abord qui lui causent une douleur indicible, mais toute sa vie, Padre Pio va souffrir des blessures des mains, des blessures des pieds, des blessures du côté, plus la blessure d'amour du cœur qui est liée à la transverbération. Donc, Padre Pio est un homme souffrant du matin au soir et nuit et jour, souffrant pour évidemment racheter les péchés des hommes à l'image du Christ. Et donc, il n'aura de cesse de souffrir. Il n'aura de cesse de souffrir, y compris dans le confessionnal, parce que il lisait dans les âmes, mais quand il confesse, il pleure, lui, à chaudes larmes, sur tous les péchés que les pécheurs ne sont pas capables de pleurer. Ça, c'est une grande dimension de Padre Pio. Et puis, il y en a une autre, c'est que à partir du moment, très tôt d'ailleurs, à partir du moment où il est stigmatisé, l'Église ne sait pas finalement gérer ce qui devient un phénomène pour son couvent de Capucins, pour les Capucins d'abord, bien entendu, un phénomène pour les catholiques et les non-catholiques qui accourent à San Giovanni Rotondo pour voir ce phénomène, pour baiser ses mains stigmatisées à travers ses mitaines, pour lui demander conseil, pour savoir s'il est capable de prédire l'avenir. Enfin, il y avait quand même un climat d'agitation, parfois même pseudo-mystique, qui n'a pas tellement plu à l'Église. Et c'est pour ça que Padre Pio a souffert aussi pour l'Église et par l'Église. Et ça, c'est aussi une de ces dimensions que nous racontons dans France catholique. C'est-à-dire que, par exemple, en 1922, Pie XI a approuvé de sévères mesures à l'encontre de Padre Pio, quelque part toujours pour le protéger contre lui-même, c'est-à-dire interdiction de correspondre avec son directeur spirituel. Et puis, tenez-vous bien, entre 1931 et 1934, il est privé du droit de confesser et de célébrer la messe en public. Il pourra la dire en privé, mais on lui demande d'arrêter de dire la messe en public pour ne pas cultiver ce côté phénomène. Alors, ensuite, ça va mieux se passer pour lui, mais Saint Jean XXIII ne saura pas très bien comment le gérer. Et on ira jusqu'à mettre des micros, tenez-vous bien quand même, dans le parloir du couvent et même dans sa cellule, bah pour savoir de quoi il retourne avec ce fameux Padre Pio. Sauf qu'il lui arrivait de confesser dans sa cellule. Et que donc, ça c'était un sacrilège qui a été même relaté dans la presse italienne de l'époque en parlant de scandale. Et Saint Padre Pio en était très très affligé, puisque malgré lui, malgré l'Église et malgré Saint Jean XXIII, eh bien on a... potentiellement écouter des confessions. Alors évidemment, Saint Jean XXIII ensuite va remettre de l'ordre là-dedans, puis va dire « on arrête tout, et moi j'ai confiance en Padre Pio ». C'est ainsi tout de même qu'il y aura 100 000 personnes à ses funérailles, 100 000 personnes pour accompagner le Capucin qui rendra l'âme en 1968, un 23 septembre, juste après avoir célébré les 50 ans de sa stigmatisation. Lui ne voulait pas qu'on célèbre cet événement, mais ce sont les groupes de prière qui s'étaient constitués à sa suite qui ont voulu célébrer cela. C'est pour ça qu'il y avait énormément de monde juste avant sa mort à San Giovanni Rotondo et qu'il y a pu avoir autant de monde pour l'accompagner. Tenez-vous bien, il y a aujourd'hui dans le monde 3 500 groupes de prière, donc c'est dire l'immense fécondité de Saint Padre Pio à l'heure à laquelle on se parle. Et finalement, le message de Padre Pio, c'est de comprendre que le Christ, il est mort pour chacun d'entre nous, que quelque part, pardon, passez-moi l'expression, ce n'est pas de la rigolade, et qu'on doit effectivement tous prendre notre croix tous les jours pour être capable de pleurer sur nos péchés. Je crois que moi, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu de ce magnifique dossier que nous vous offrons à lire dans France Catholique.
Et pour rebondir sur vos propos, notamment de la fécondité extraordinaire de Padre Pio, nous avons aussi l'occasion dans France catholique et justement dans le cadre de l'année du Sacré-Cœur de découvrir un des enfants spirituels de Padre Pio, donc en l'occurrence une femme, la bienheureuse Maria Gargani.
Oui, tout à fait, parce que chaque semaine, France catholique, en cette année du Sacré-Cœur, du 350e anniversaire des apparitions à Paray-le-Monial, vous propose de découvrir une histoire liée au Sacré-Cœur, et Dieu sait qu'il y en a. Et bien là, effectivement, c'est un coup de projecteur sur la bienheureuse Maria Gargani, qui, dès l'âge de 24 ans, a commencé à écrire à Padre Pio. Et en fait, toute sa vie, elle a correspondu avec lui, donc on a énormément de lettres qui émanent de leur correspondance. Padre Pio a vraiment été un directeur spirituel et quand je vous disais justement qu'il y avait cette dimension de croix et d'être capable de pleurer sur nos péchés, bah elle va vraiment s'inscrire dans cette spiritualité de Padre Pio, c'est-à-dire qu'elle va fonder la pieuse union des sœurs apôtres du cœur eucharistique de Jésus, c'est-à-dire une congrégation capable de prier en réparation pour toutes les offenses qui sont faites perpétuellement au Sacré-Cœur qui est si peu aimé. Et effectivement, Sœur Maria Gargani va être béatifiée en 2018. C'est l'une des nombreuses filles spirituelles de Padre Pio. On parle aussi dans France catholique d'un autre fils spirituel qui s'appelle le Père Jean Desjobert. Et vous découvrirez des anecdotes vraiment très très savoureuses parce qu'il a connu vraiment de très très près Padre Pio.
Merci beaucoup Véronique et donc là nous arrivons bientôt au terme de notre émission et comme d'habitude nous terminons avec notre tour de France des sanctuaires mariaux et aujourd'hui nous nous rendons à Notre-Dame de la Paix dans le Limousin.
Oui, Notre-Dame de la Paix en Haute-Vienne. Alors ça s'appelle le Petit Lourdes du Limousin, ce sanctuaire. Pourquoi ? Parce que il y a un abbé qui s'appelait l'abbé Paul Elias qui en septembre 1939, lors de la déclaration de la guerre, promet de consacrer à Notre-Dame le village de Saint-Auvent, qui se trouve à l'ouest de Limoges, si tous les hommes des villages dont il avait la cure, la charge, revenaient vivants du front. Eh bien, c'est ce qui va se passer. Donc déjà, en soi, c'est un miracle. Et donc, ni une ni deux, l'abbé va construire, en l'honneur de la Sainte Vierge, un sanctuaire à partir de 1946. Et il avait une idée bien précise, ce père Elias, du sanctuaire. Il voulait que son sanctuaire Notre-Dame de la Paix devienne un petit Lourdes du Limousin, donc il a fait creuser, tenez-vous bien, une grotte qui est la reproduction la plus fidèle possible de la grotte de Massabielle. Et alors, en plus de la réplique de la grotte de Lourdes, on peut trouver d'autres dévotions mariales à Saint-Auvent, dans ce sanctuaire Notre-Dame de la Paix. On trouve sous divers vocables Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Pontmain, Notre-Dame de la Salette et Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. Voilà, il faut savoir que la chapelle Notre-Dame de la Paix a été construite dans l'enceinte du sanctuaire en 1989. Donc, on voit qu'il y a 1946, commencement de la construction du sanctuaire. 1989, cette fameuse chapelle Notre-Dame de la Paix construite. Donc, on voit qu'il y a quand même une sacrée dynamique du côté de ce petit Lourdes du Limousin que je vous invite à découvrir, bien entendu, dans France catholique, mais pas que. Hein, on peut se rendre aussi en Haute-Vienne, bien entendu.
Merci pour tout, Véronique. C'est déjà la fin de cette émission. Je rappelle à nos auditeurs le site internet de France catholique, www.france-catholique.fr. Vous avez aussi la possibilité de suivre France catholique sur Facebook, Twitter et Instagram. Un grand merci, Véronique, pour ce temps passé avec nos auditeurs.
Merci infiniment à vous tous. À bientôt.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était France Catholique, la revue commentée. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.